Bienvenue à l'écoute de l'émission Ici l'Onde. Aujourd'hui, les auteurs du rock. Ils sont éditeurs, écrivains, journalistes. Pour eux, le rock va au-delà d'un simple style musical.
Depuis tout petit, j'écoute la radio chez moi. Ma maman écoutait la radio, elle écoutait en particulier RTL. Et c'est pour ça que je connais aussi bien Bob Dylan que Daniel Guichard et Gérard Lenormand. J'ai toujours aimé la musique, je faisais la musique dès que j'avais 5-6 ans. J'ai appris que chimiquement, ça provoquait quelques petits trucs d'hormones, machin, etc. Et que la musique, c'est un bonheur. Et puis après, j'ai découvert les mots, ce qu'on pouvait faire avec des mots et de la musique. Et c'est toujours du plaisir. Voilà, c'est devenu irrationnel. Et je me suis dit, j'adore, c'est intéressant. J'ai commencé à traduire les textes pour voir un petit peu ce que ça recouvrait. Parce que le son plaisait, la voix, en adéquation avec la musique me plaisait. Je voulais savoir ce qu'il racontait. Comme pour Leonard Cohen, comme pour Bob Dylan. Bon, c'était un truc ardu, surtout avec le niveau en anglais qu'on peut avoir quand on est en 5e, 4e ou 3e. Mais ça m'a plu. Et puis écrire là-dessus, ça m'a plu. Et puis toute ma vie, je me suis dit, tiens, je voulais être journaliste déjà depuis tout petit. Ou chef d'orchestre. C'était un peu trop dur, même si j'adorais le classique, parce que j'ai une énorme collection de disques classiques, parce que j'adore ça, le baroque, bref, peu importe. Et voilà, parce que j'aime ça. Et je trouve que c'est une discussion que j'aime avoir avec mes amis, de parler de musique. Et écrire sur la musique, ça poursuit cette conversation, ça lance cette conversation, parce que je dialogue avec les lecteurs. Les lecteurs m'envoient des lettres, des mails, auxquels je réponds systématiquement, certaines que je publie, d'autres sur lesquelles je réponds en direct, parce que c'est intéressant d'entretenir ce dialogue, parce que c'est ça qui m'intéresse dans ce métier.
Hugues Massello, je suis l'éditeur de la collection Discogonie, dont le concept est d'aborder pour chaque livre un album rock, pop, folk, de l'analyser chanson par chanson. Donc il y a The Cure, Pornography, il y a Radiohead, OK Computer, il y a Nick Drake, Nick Cave, il y a Nirvana, Patti Smith, voilà. Il y a 11 titres parus.
Au pays de matin calme, pas un bruit nous sourd.
Alain Bachung, l'album Fantasy Militaire, il a réussi à rencontrer tout le monde. Jean Fauque, qui a fait les paroles, et puis tous les musiciens qui ont participé, le producteur qui l'a enregistré. Ça ouvre sans doute des références auxquelles on ne pense pas immédiatement quand on écoute de la musique. Ça ouvre sur la littérature, sur des domaines musicaux qui ne sont pas ceux forcément du rock. Des influences, des références qui peuvent remonter à la musique classique dans certains albums pop. C'est une manière de prendre un peu au sérieux le rock, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ça fait pas très longtemps que c'est pris au sérieux et qu'on écrit dessus, en tout cas en France.
Angora, sois le soir, sois encore à moi.
J'étais étudiant en journalisme et j'ai envoyé une candidature de stage au lieu de l'envoyer en presse quotidienne régionale, ce qu'on nous oblige à faire. J'ai envoyé à Rock et Folk. Je suis venu, j'ai mis le doigt dedans et j'ai pu quitter le domaine depuis. Eh bien, mon nom est Belkacem Balouli, je suis le rédacteur en chef de Rolling Stone France, de l'édition française du magazine américain fondé en 67 par Ian Wenner. Moi, mon truc, c'était éditer des journaux et j'ai commencé très rapidement en devenant d'abord SR, secrétaire de rédaction, puis chef adjoint, rédacteur en chef, parce que je voulais faire le journal, parce que c'était le truc qui m'intéressait. J'ai fait beaucoup de journaux de rock, de presse ado aussi, presse pour adolescents, tout en gardant le côté rock, puisque le dernier que j'ai fait en presse ado s'appelait Tribu Rock. C'était du rock présenté à des jeunes de 14-16 ans. À l'époque, les stars, c'était les White Stripes, c'était Marilyn Manson, c'était Kyo. Et avant, j'étais dans un truc beaucoup plus sérieux, on va dire, qui s'appelait Musique Info Hebdo, qui était un magazine qui s'adressait à l'industrie du disque, qui n'était pas un magazine grand public, mais où il y avait quand même une part artistique, parce qu'il faut quand même savoir ce qu'il y a dans les disques. Et voilà, et sinon j'ai fait aussi le premier quotidien musical sur internet, mais multimédia, qui s'appelait Le Quotidien de la Musique. Elle est à la grande époque des startups qui ont fini toutes stop down. Finalement, il n'y a pas eu de modèle économique et je suis retourné faire de la presse. Tu connais plus rock que Brassens ? Lis les textes de Brassens, comparer avec ceux de Radiohead et reviens me voir.
À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol.
J'ai découvert, disons, la chanson et l'amour de la chanson quand j'avais 10 ou 11 ans, et c'était grâce à Brassens d'ailleurs.
Frénétique l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau.
Ça me parlait comme un homme simple, et puis j'ai commencé à me voir offrir un 45 tours, puis un 33 tours de Brassens, et mon amour de la chanson est parti comme ça.
Ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur aurait même coupé les choses. Par bonheur, il n'en avait pas.
Je m'appelle Jacques Vassal, je suis un enfant de 47.
Par bonheur, il n'en avait pas.
Après, il y a eu Jacques Brel, un peu plus tard, vers 13-14 ans. Plus tard, Léo Ferré, d'autres chanteurs français, mais vers 15-16 ans, c'est le folk song américain, des guitares sèches, des mélodies, et là aussi des paroles qui m'intriguaient, qui m'intéressaient ou qui m'amusaient. La fréquentation des chansons américaines m'a aidé à me perfectionner en anglais. Et puis je suis arrivé en 66 à écrire une lettre à un monsieur qui écrivait dans une revue, une chronique d'un disque que je connaissais où j'étais pas d'accord avec lui, j'avais 19 ans. Si vous voulez, rencontrons-nous pour en discuter. Il s'appelait Michel-Claude Jalard, je pense qu'il est décédé à l'heure où nous parlons, hein, c'était il y a longtemps. Et il m'a fait connaître à la rentrée 66, donc 3 mois après cet échange de lettres, les gens qui créaient la revue Rock et Folk. L'été 66, j'étais allé à mon tout premier voyage aux États-Unis. Il y avait beaucoup de 33 tours américains intéressants qui ne sortaient pas sur le marché français. Donc on n'aurait pas pu les acheter en France. Alors j'ai profité du voyage. J'y ai mis pas mal d'économies et je suis revenu déjà avec une petite moisson. Et puis ensuite, j'ai rencontré les gens de Rock et Folk. Donc ça nous intéresse, on a de la place, prépare-nous quelque chose. Alors on a discuté pour savoir quoi. Et je leur ai dit, il y a un chanteur néo-zélandais qui commence à être connu, c'est Graeme Wright.
Tu joues avec les autres comme des figurants flatteurs qui sont tout juste bons pour vous mettre en valeur.
Premier article que j'ai fait professionnellement, c'était Rock et Folk numéro 3, daté janvier 67, et c'était une interview de Graeme Wright. Une vieille amitié professionnelle, mais qui est devenue aussi au fil du temps une amitié tout court.
Vas-y, joue, 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 fais pleurer, fais souffrir, il y en aura toujours pour applaudir.
Le contenu profond, justement, d'un nanar contestataire comme Brassens, qui voyait les choses d'une certaine façon, qui avait vécu la guerre, qui a même été STO, qui est parti en Allemagne travailler, et qui revient et qui jouit enfin de sa liberté, et qui peut dire enfin tout ce qu'il veut. Il a quand même chanté des trucs comme « Se faire enculer, Fernande ». Tout le monde ne chante pas ça. Ça, c'est rock. C'est une appréhension générale de la vie, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le truc comme argent comptant. On n'accepte pas, c'est-à-dire que le rock, c'est aussi un esprit critique.
Et dans le rock, eh ben, y a beaucoup d'artistes dit de folk au départ, c'est-à-dire des artistes qui s'accompagnaient avec une guitare sèche, un harmonica, qui parfois ont électrifié leur musique, et donc aussi des groupes qui étaient mi-rock, mi-folk. À l'inverse, on a eu plus tard, à partir des années 80-90, certains artistes qui étaient catalogués et qui faisaient de la musique purement rock'n'roll au départ, comme Bruce Springsteen, par exemple, mais qui écrivait aussi des textes pensés, des textes où il y avait de la critique sociale et où il y avait une certaine exigence de vocabulaire, qui se sont mis à s'intéresser à Woody Guthrie, à Pete Seeger, et à faire des albums aussi avec de la musique acoustique, ce qui a amené une partie du public rock vers une sensibilité plus folk. Donc, si vous voulez, les échanges ont existé dans les deux sens.
Pas prendre le plat servi comme ça directement sous prétexte que la gamelle est remplie, pour pouvoir garder cet esprit critique. Un gars comme Brassens, quand il est revenu en France, il s'est dit, mais c'est ça qu'il faut protéger, c'est cette culture-là qu'il faut protéger, le fait de pouvoir faire ce que je veux, c'est-à-dire jouer de la guitare, écrire des chansons, vivre avec une femme extraordinaire, ses chats, ses guitares, qui font que c'est une vraie vie.
Quelque part, être témoin de son temps, être témoin de son époque, de la société dans laquelle on vit, et à notre ère multinationale et planétaire, être témoin aussi de la marche du monde, forcément. Donc, et au fond, il y a eu chez les folk singers des années 30 et 40, des gens qui ont parlé de la guerre d'Espagne à l'époque, alors qu'ils étaient américains du Nord et que ça se passait en Europe. Eh bien, l'histoire des brigades internationales dans la guerre d'Espagne, ça les a interpellés.
En 68, on réclamait un changement de société qu'on a gagné, qu'on a eu. Parce que les gens n'avaient strictement rien. Ils portaient juste leur chemise, leur fringue, et allaient manifester. Là, on voit des gens manifester, et c'est pas réacte de dire ça, c'est juste une observation. Ils ne réclament pas de changement de vie, puisqu'ils sont totalement asservis à leur vie. Ils viennent manifester avec des portables à 1000 balles, avec des baskets à 500 balles. C'est pas la même réclamation, et on fait ce qu'on veut aujourd'hui. Donc le changement de société qui s'est opéré à la fin des années 60 est à encore cours aujourd'hui.
Bien des chanteurs américains se sont intéressés d'abord, par exemple, à la guerre du Vietnam, qui a été quand même un traumatisme fondamental dans la collectivité nord-américaine. Et bien la contestation de cette guerre a amené un certain nombre de ces gens-là à se faire une information d'abord, et dans certains cas presque une culture politique, c'est-à-dire à lire des journaux, à décrypter ce qu'il y a derrière le spectacle quotidien d'une guerre relayée par les médias. Lorsque John Baez, en pleine réescalade de la guerre du Vietnam, un Noël là-bas, à Hanoï, eh bien, elle a témoigné sur les bombardements du Nord-Vietnam par l'armée américaine, alors même qu'elle était citoyenne américaine. Elle disait aussi dans des interviews dans ces années-là qu'elle refusait de payer ses impôts, ou plus exactement la part d'impôts qui revenait au budget militaire. C'était sa manière de protester en ne soutenant pas le financement de cette guerre.
Rolling Stone, il y a le modèle américain, le modèle français.
En fait, il y a 18 éditions dans le monde, mais on utilise cette marque qui nous permet d'ouvrir certaines portes, c'est-à-dire qu'en France, on a parfois beaucoup de difficultés à rencontrer certains artistes internationaux de très très gros calibre. En France, le Rolling Stone a une image de magazine rock, au lieu d'être un magazine de culture rock, ce qu'il est vraiment. Et que la culture s'inscrit dans des mouvements sociétaux, surtout pour un magazine de Baba Cool qui a été fondé, comme je le disais tout à l'heure, en 67 aux États-Unis, en plein Summer of Love, qui était un mouvement social, mais aussi contestataire. La libération sexuelle, le fait de contester une société qui était trop formatée en costard-cravate, quand on voit les photos des manifestations étudiantes des années 60, ces chemises blanches, cravates, vestons, le jean n'existait pas. Et les quelques personnes qui s'habillaient comme ça, comme l'a chanté Polnareff bien plus tard, se faisaient insulter dans la rue.
La société ayant renoncé à me transformer, à me déguiser pour lui ressembler. Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédé, mais les femmes qui le croient n'ont qu'à m'essayer. Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel?
Et Léo Ferré aimait beaucoup de Jimi Hendrix. Alors, ça paraît pas évident quand on écoute sa musique. N'empêche qu'il y a parfois des guitares électriques, mais il y a aussi de la musique symphonique, il y a aussi des orchestres symphoniques. Quant à Jacques Brel, il aimait beaucoup la musique classique symphonique. Il écoutait beaucoup, notamment de Bach, de Mozart. Il écoutait des émissions en France Musique. Alors, il connaissait le rock'n'roll, mais c'était pas son style de musique. Cependant, il avait peut-être, pourrait-on dire, une attitude rock'n'roll dans le métier, qui consiste à essayer de briser les codes, de contester un certain ordre établi.
L'aventure commence à l'aurore de chaque matin.
Quand il en a eu marre du succès, il a arrêté les tournées, il a arrêté la scène, il l'a annoncé et il s'y est tenu. Il est parti sur son bateau, il est parti aux Marquises, et il a fait de l'avion, il a fait du bateau. C'est-à-dire, il avait fait de sa vie une aventure, si vous voulez. Et ça, je trouve que quelque part, c'est assez rock'n'roll comme attitude, même si sa musique ne l'était pas du tout.
Nous, on a un label Rolling Stone qui nous permet d'utiliser du matériel américain. Mais on fait nos propres couvertures, la ligne éditoriale est la ligne éditoriale du magazine américain. Sauf que là, par exemple, ces derniers temps, le magazine américain s'est beaucoup tourné vers le rap et le R&B qui ne correspond pas au lectorat français qui est plus rock. Et éventuellement à du rap vintage ou du R&B vintage.
Les Français considèrent que la culture rock est terminée, c'est une époque vintage et
non, pas du tout, parce que dans le Rolling Stone français, il y a à peu près 60 à 70% de nouveautés ou de groupes qui ont moins de 5 ans. Mais effectivement, les couvertures sont portées souvent par du Rolling Stones, Beatles, Neil Young, Springsteen, Dylan, parce que c'est fédérateur et ça nous permet de faire un fil rouge. Parce que c'est une industrie, il ne faut pas oublier, on n'est pas là que pour la beauté du geste. Il faut payer les gens, il faut payer les photographes, il faut payer les journalistes. Parce qu'on est plus dans l'étude et sur l'impact sociologique que sur la pure critique de rock, qui est un truc un peu suranné aujourd'hui. Rolling Stone est né de la contestation. On ne peut pas nier ce point. Aujourd'hui, il y a des contestations partout, donc il y a de l'art. À partir du moment où il y a une contestation, il y a un art contestataire qui va avec. Rolling Stone est une émanation de la Free Press, qui était des trucs polycopiés qu'on distribuait dans les universités dans les années 60, qui étaient des journaux qui vivaient 1, 2, 3 numéros. Rolling Stone a réussi à passer à l'âge industriel en 3 numéros, alors qu'il se voyait mort dans un grenier de San Francisco. Et réussir à sortir tout ça et l'inscrire, c'était dès le premier numéro, dans un mouvement. Aujourd'hui, on continue à porter des jeans, donc celle qui était la contre-culture d'hier est devenue la culture mainstream d'aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la contre-culture d'aujourd'hui, je la cherche. Certains disent que c'est dans le rap ou dans l'électronique, où on va chercher des trucs un peu barrés, comme on dit, ou dans les arts plastiques, avec des installations démentielles. Mais les installations démentielles, ça existe depuis 2000 ans. En 68, les gens manifestaient pour vivre, pour pouvoir faire l'amour, pour pouvoir s'éclater, pour pouvoir écouter de la musique, pour pouvoir... La phrase, c'était jouer sans entrave.
J'ai écrit des livres d'abord sur Georges Brassens, sur Jacques Brel, sur Léo Ferré, pour ce qui est des Français. Et autrement, j'ai aussi une autre facette de mon activité qui est traducteur. Donc j'ai traduit un certain nombre de livres de l'anglais américain, des livres américains en français, en dehors des poèmes de Leonard Cohen. Livre de Woody Guthrie, qui était le grand pionnier du folk américain moderne. Le livre d'Alan Lomax, qui s'appelle Le pays où naquit le blues.
Dieu est nègre.
C'est l'histoire des débuts du blues dans le delta du Mississippi, dans ce que les Américains appellent le Deep South.
Pauvre et maigre.
Et où ce blues est né comme musique, on pourrait dire, à la fois de consolation et de parfois de contestation de leurs conditions de vie, et qui est devenu finalement, comme le dit Alan Lomax, l'auteur, une musique fondamentale dans ce qu'on appelle la sono mondiale. J'ai voyagé quelques fois en Russie, j'ai rencontré des gens qui jouaient dans un groupe de blues à Moscou avec des paroles en russe, mais de la musique blues.
Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans. You know you hurt me so.
On a développé une collection qui s'appelle Instrumental, qui est dédiée aux livres liés à la musique et en particulier au monde du rock. Et le premier texte que l'on a sorti, c'est Jeffrey Lee Pierce de Marc Sastre, le premier de la collection. Et ensuite, on a publié deux recueils de chroniques qui étaient sortis dans le fanzine 19. Ça se limite pas au rock. Il y a aussi un livre sur le flamenco, même deux sur le flamenco. Non, c'est beaucoup plus ouvert. Et puis il y a aussi deux livres sur la tournée de Bob Dylan. Ken Carter, il avait envoyé sa biographie à Bob Dylan, qu'il avait apprécié, qui avait décidé de le défendre et qui a fait son possible pour le faire sortir de prison. Donc c'est un peu transdomaine. Virginie Girard, les éditions Les Fondeurs de Briques, Et moi, je m'occupe de traduction, de correction, enfin, comme on est deux.
Je suis Jean-François Bourdic, donc un des deux éditeurs des Fondeurs de Briques. Bah, on publie des livres à notre image, on va dire.
On a aussi sorti le livre sur le blues, qui est plutôt comme une sorte de bible, un recueil de témoignages importants et historiques.
L'édition, la façon dont on le fait, c'est une aventure de toute façon. Alan Lomax, qui est un des grands ethnomusicologues nord-américains du XXe siècle, c'est de l'aventure. Sur les routes du sud des États-Unis, on est dans les années 40, il va recueillir, enregistrer, rencontrer les artistes.
Parce qu'il va dans les champs de coton, il va dans les prisons, rencontrer tous ces gens, recueillir leurs témoignages. Et parfois, il est embarqué avec la police, ça se faisait pas.
Voilà, lui, il est blanc, effectivement, donc il va dans les quartiers noirs.
Il appelle les noirs monsieur, donc ça se faisait pas, non, il se fait remarquer.
If your man get personal, won't you have your phone?
C'est pas un travail universitaire, c'est un travail vraiment de terrain, quoi. Et lui est mandaté par la bibliothèque du Congrès de Washington, recueillir puis archiver les chants populaires, traditionnels, et en l'occurrence dans ce livre-là du sud des États-Unis. Il rencontrait des gens dont c'était pas le métier d'être chanteur, musicien, et il leur laisse la parole, pas pour se mettre en avant, mais pour vraiment porter cette parole-là de gens qui étaient des travailleurs des champs, qui étaient des prisonniers, qui étaient des gens humbles, qui n'avaient pas la voix au chapitre. Et lui s'est fait un peu l'intermédiaire de par sa passion pour le blues et la musique populaire. C'est un bouquin d'amateurs, de passionnés et d'aventuriers d'une certaine façon. Bon, après, il a une place historique importante parce que s'il n'avait pas fait ce travail de collectage et ensuite d'archivage de ces musiques-là, elles auraient été perdues parce que c'est des musiques éphémères par définition quasiment. Ben, on est passionné de livres et d'éditions au départ. Ça résulte d'un choix de notre part de garder un métier à côté et de faire ça par passion, évidemment. On a quand même les pieds sur terre et puis pour faire un livre derrière un autre livre, il faut que le premier soit vendu un petit peu. Mais on n'est pas sur une logique purement économique. On est d'abord sur une logique intellectuelle, on va dire, ou de réflexion, de proposition de choses. De porter la voix des sans-voix ou des gens qui sont peut-être moins présents médiatiquement. Les Noirs américains, les Gitans d'Andalousie ont quand même des points communs, même s'ils n'expriment pas de la même façon dans leur musique, ça a été leur façon de se faire entendre, quoi. Et voilà, c'est peut-être ça qui nous touche au final, quoi.
Как звездочку тебя ищу, разлука, как телескоп.
Pas mal de gens disent le rock est muséifié parce que toutes les grandes stars sont mortes ou vont mourir bientôt. C'est une aberration parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. La musique populaire, c'est de la musique populaire. On l'appelle rock, on l'appelle pop, on l'appelle comme on veut. C'est un truc qui a toujours existé. C'est toujours inscrit dans l'histoire. Je pense qu'on chantait des chansons du temps des Romains, des Grecs, des Égyptiens. Donc il y a toujours eu un air du temps qui accompagnait la musique. Là, la musique de notre air du temps, c'est le pop-rock. Avec le rap qui s'est ajouté dans les années 80, avec le R&B, les musiques électroniques à partir des années 90, etc., qui est devenue une musique massive et populaire. Non, ça s'inscrit dans une dynamique. Après, que ce soit joué avec des claviers ou avec des guitares, on aime ou on n'aime pas le son, mais on a toujours de la musique quoi qu'il arrive. Après, soit on se passionne pour ça et on veut creuser la chose, on veut savoir comment on crée, comment on écrit, et on veut rencontrer ces artistes, non pas pour être pote avec, on ne sera jamais pote avec Mick Jagger ou Paul McCartney, c'est une aberration, mais comprendre un peu le mécanisme qui les a poussés à articuler des mots sur de la musique, à chercher de la meilleure manière de raconter une histoire. Voilà, parce qu'en fait, fondamentalement, on cherche juste des belles histoires. À mon sens, on aime les histoires, on aime qu'on nous raconte des histoires, et puis le journalisme musical, c'est aussi raconter des histoires et remettre dans un contexte pour mieux comprendre pourquoi, à un moment, Mick Jagger a eu envie d'écrire Sympathy for the Devil, qui est quand même une chanson de dingue.
Les grands médias, grand public, n'ont pas tendance, radio et télé, à relayer en priorité les sujets qui contestent le plus l'ordre établi.
Au nom du pèse, du fric et du saint grisby, je donnerai cher pour être riche, pognon fric aux aïatiches, j'ai le no-flues blues.
Même si les médias ne sont pas gouvernementaux, ils ont tendance à être assez consensuels, si vous voulez. Bon. Mais il y a une chose qui est très importante de nos jours, depuis maintenant, on va dire, une dizaine, douzaine d'années, c'est la prolifération notamment de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Alors moi, je les appelle parfois les réseaux antisociaux. Ils ne rendent pas forcément toujours des bons services à la collectivité.
Il faut voir la gueule de l'emploi. J'ai fait chômeuse à plein temps et puis femme de ménage à trois. Mais à laisser, c'est gratifiant. Oui, enfin bref, toutes les besognes et même la belle au bois de Boulogne.
Mais ça permet parfois à une certaine culture contestataire, y compris à des chansons et à des chanteurs contestataires non médiatisés par ailleurs, de passer à leur tour entre les lignes.
C'est ça le no-flues blues. Mais comment dire à ses amis qu'on leur devra toujours des ronds? La seule chose qui différencie le riche du pauvre, c'est le pognon. Du coup, je rumine mes angoisses, mais bon, ça nourrit pas des masses.
Et on a parfois des surprises. Il y a par exemple une jeune femme en France qui s'appelle Agnès Bill, qui a écrit des très belles chansons, qui a une très belle plume et qui écrit des très belles chansons politiques et contestataires.
À la manif, on était tous un peu naïfs. On défilait sous la pluie pour changer la gueule de la vie. Ce jour-là, tout le monde y croyait. La France est un pays riche en pauvres.
Elle peut être jugée comme faisant partie de ces lanceurs ou de ces lanceuses d'alerte. Problème des problèmes sociaux, migrants, des gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois.
Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire. Ensemble, on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire.
Ce sont des gens qui ont une réflexion, ce qu'on rêve, ce qu'on a envie de cautionner ou au contraire, ce qu'on a envie de dénoncer.
Fela, on a découvert Fela, et en parallèle, on a découvert quoi? La famine au Biafra, parce qu'il y avait une guerre atroce qui se déroulait à ce moment-là. Après, on a découvert l'Est de l'Afrique, la Somalie, grâce à We Are The World. Les gens ne savaient même pas où situer la Somalie sur une carte. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Je me dis, je veux parler de ça. Et donc, les rockers ont servi aussi à alerter là-dessus, comme avec l'affaire Mandela, les concerts pour Mandela, les grands concerts de charité, lorsqu'il y a des éléments dramatiques, pour réussir à faire du fric, le fameux We Are The World. Et ça a servi à ouvrir les gens sur le monde, parce que sinon, on reste enfermé, on sait même pas ce qui se passe. Moi, ça m'a profondément marqué, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Il n'y a pas un rock, il y a 50 000 rock. Les fans de métal n'est pas du tout fan de techno, n'est pas... Voilà, techno fait partie de la culture rock, puisque ça adopte les mêmes attitudes comme le rap. Le rap, c'est le nouveau rock, ou la country, même aujourd'hui, c'est le nouveau rock.
Plus j'avance, plus je grandis, plus je comprends rien.
Tirer les gens vers le haut, vers l'esprit critique, vers la compréhension de ce qui se passe et prendre en compte le fait qu'il y a des gens autour. Et le fait de faire ce journal par rapport à tout cela me permet justement d'avoir de maintenir ce petit esprit critique.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
C'est la fin de l'émission Ici Londres. Bonne écoute.
This is the end.